d'économie.
La gestion de la taxe aéroportuaire d'embarquement IDF est une exclusivité de la RDA. Le Premier ministre l'a affirmé dans un point de presse il y a quelques jours et des observateurs qualifient cette gestion d'opaque. Des analystes économiques estiment qu'il faut recourir aux inspecteurs financiers ou à la Cour de compte pour lever le voile sur la gestion du GoPass. L'actualité, c'est aussi la sixième session du comité de politique monétaire de la Banque centrale du Congo. Parmi les avancées, la banque parle de 1,6 milliard de dollars américains en réserve de change. Au Sud-Kivu, la pêche est perturbée sur le lac Tanganyika. Des vents violents font chavirer les embarcations et empêchent le bon déroulement de la pêche depuis près d'une semaine. Une situation qui pourrait entraîner la rareté et la hausse de prix du poisson sur le marché. Bonsoir et bienvenue à tous. La gestion de la taxe aéroportuaire d'embarquement IDF, communément appelée GoPass, nous en parlons ce soir. Vous vous rappellerez, il y a quelques semaines, dans un point de presse tenu par le Premier ministre, Matata Ponyo a indiqué que le GoPass est une parafiscalité destinée à la RDA et gérée exclusivement par elle. Une situation qui, selon des analystes économiques, rend opaque la gestion de ces fonds. Mais quels sont les mécanismes qu'il faut mettre en place pour lever le voile sur la gestion du GoPass? Michel Somoué, analyste économique, répond à Nadine Foulansimba.
Mais le gouvernement ne doit pas prétendre ne pas avoir l'information sur ce qui se passe au niveau de la gestion de la taxe GoPass. Ce n'est pas, à mon humble avis, responsable de la part du gouvernement de fermer l'œil sur ce qui se passe avec l'argent payé par le citoyen congolais. La taxe GoPass est la taxe la plus facile à percevoir. Et donc la taxe qui ne peut nullement échapper à l'information de quiconque connaît exactement le nombre de passagers qui empruntent l'avion chaque jour, aussi bien pour l'intérieur que pour l'extérieur du pays. Donc ce sont des informations qui sont les plus faciles à recueillir et sur lesquelles donc on peut retracer aisément tous les montants.
À votre avis, qu'est-ce qu'il faut faire? Quels sont les mécanismes qu'il faut mettre en place pour contrôler cette gestion?
Mais les audits, nous avons les inspecteurs, l'inspection générale des finances, qui est très très bien outillée avec une expertise et des hommes de très haute valeur. Nous avons tout un arsenal de contrôle qui existe. Que je pense qu'il ne manque pas au gouvernement les instruments de contrôle, mais il est question que le gouvernement apprenne à se servir de ses propres instruments, de ses propres mécanismes qu'il a extrêmement mis en place et pour lesquels il dépense aussi énormément de l'argent. Je ne pense pas que ce soit, à mon humble avis, indispensable qu'on puisse, pour prélever une simple petite taxe comme le GoPass, qu'il y ait 14 services de l'État autour de cette affaire, quand on connaît l'objet social et quand on sait que ça n'a jamais fait défaillance du côté du prélèvement de la taxe GoPass au niveau de l'utilisation. Quand bien même il y aurait 36 services de l'État à l'aéroport pour contrôler le prélèvement ou le paiement de la taxe GoPass, cela n'empêcherait pas que les gens affectent les fonds qui sont prévus pour une dépense claire et précise à d'autres besoins qui ne sont pas toujours clairement défini.
Michel Somoué, analyste économique, répondait à Nadine Foulansimba, Nadine que nous gardons justement avec nous pour nous parler du GoPass.
La taxe IDEF ou GoPass est une redevance instituée par l'Organisation internationale de l'aviation civile. Elle n'est donc pas une innovation congolaise. L'OIAC voulait, en créant cette taxe, rendre possible, avec les recettes encaissées, la réhabilitation ou encore le développement des infrastructures aéroportuaires. En RDC, la taxe IDF ou GoPass a été mise en place en avril 2009 par le gouvernement. La régie des voies aériennes RVA était chargée de la collecter. L'objectif est de pourvoir aux besoins des infrastructures aéroportuaires de la RDC, dont les aéroports de Njili à Kinshasa, de la Luano au Katanga et de Bangoka dans la province orientale. Selon nos sources à la RVA, il y a 4 ans, le GoPass a rapporté 18 millions de dollars américains par an, des fonds dont la gestion suscite plusieurs interrogations auprès des observateurs. D'abord, c'est l'Assemblée nationale qui s'est posé des questions sur la perception et l'affectation de la redevance GoPass. À cet effet, le bureau de l'Assemblée nationale avait mis sur pied en novembre 2012 une commission d'enquête parlementaire chargée du contrôle à la RVA en vue d'assurer la transparence dans la gestion de cette redevance. À la suite de l'Assemblée nationale, c'est la Cour des comptes qui a levé le ton. Les recettes générées par les paiements des taxes au niveau des aéroports de la RDC ne sont pas bien gérées. Sans rendre disponibles les chiffres irrelatifs, la Cour des comptes fait état d'une gestion, je cite, non orthodoxes de fonds générés par la taxe IDEF exigée aux voyageurs par la RVA. Il y a également l'Association africaine de défense des droits de l'homme Azado qui, en son temps, avait souligné sa préoccupation pour la gestion opaque des recettes qui proviennent de la redevance des fonds de développement pour les infrastructures aéroportuaires. Et la toute dernière réaction, c'est celle du Premier ministre qui a indiqué dans un point de presse que cette taxe est destinée à la RVA et gérée exclusivement par elle. Alors, comment réagit la RVA? Les préoccupations des uns et des autres sont fondées. Avec le fonds perçu par la redevance IDEF, la RVA est parvenue à répondre à certains besoins de développement des infrastructures aéroportuaires du pays. Mais cela ne se fait pas sentir car le besoin sont immenses, nous a-t-on indiqué à la RVA.
La Banque centrale du Congo maintient le dispositif de la politique monétaire dont 2% de taux directeur et l'inflation maintenue en deçà de 1%. Le gouverneur de la BCC qui a présidé la 6e réunion du comité de politique monétaire ce week-end justifie ce maintien par la stabilité observée dans presque tous les segments du secteur économique, quand bien même les cours des matières premières soient en légère baisse. Cette réunion du comité de politique monétaire était également l'occasion pour Deo Gracias Mutombo de faire le bilan du premier semestre 2015. Les propos de Deo Gracias Mutombo dans cet extrait choisi par Daniel Tambinzoni.
55 ans d'âge, c'est plus que la maturité. C'est plus d'expérience pour un pays comme le nôtre, la RDC, qui en 1960 n'avait que 14 millions d'habitants. Mais aujourd'hui, nous sommes à plus ou moins 80 millions d'habitants. C'est un pays qui a aujourd'hui un PIB par habitant en 2014 de 514 $ par habitant. Alors qu'en 1960, on était à 512. En termes de chiffres, nous avons déjà dépassé les revenus par habitant de 1960. Et nous projetons pour fin 2015 un revenu par habitant de 571. Bon, on peut me rétorquer que la pauvreté est toujours là. Et l'origine des secteurs contributifs à ces revenus, c'est différent de l'époque. C'était des secteurs distributifs aujourd'hui. Mais de toute façon, c'est une avancée notable. Parce que rien qu'en observant l'évolution de ce paramètre-là, PIB par habitant, de 1960 à ce jour, en passant par la décennie de la grande récession qu'on a connue, vous connaissez, la décennie 1989-2001, qui a connu un revenu par habitant le plus bas sur la planète, de $124. Je crois que nous sommes en droit de dire objectivement qu'aujourd'hui la RDC est dirigée sous l'impulsion du chef de l'État par des personnes matures comme elle-même et responsables. Des personnes qui font de notre histoire, de notre culture, de notre situation économique, ont su mettre en place une gestion publique responsable et sage. Et c'est depuis 2002 quand nous avons mis sous l'impulsion du chef de l'État en place des réformes structurelles sur le plan politique, social et économique que le pays renoue avec une forte croissance depuis 2002. Et jusqu'à aujourd'hui, ça fait presque 14 ans d'affilée sans discontinu. Et la moyenne de croissance pendant ces 14 ans, c'est 6,8%.
Les contribuables relevant de la direction des grandes entreprises, des centres des impôts ainsi que des sièges modélisés et modernisés des directions provinciales des impôts ont rendez-vous avec le fisc au plus tard vendredi 31 juillet. Il s'agit du rendez-vous avec le paiement du premier acompte provisionnel de l'impôt sur les bénéfices et profits de l'exercice fiscal 2016 portant sur les revenus 2015. Le communiqué de la DGI renseigne que le montant à payer représente 40% de l'impôt déclaré au titre de l'exercice comptable 2014, augmenté des suppléments éventuels établis par l'administration fiscale. La table ronde sur le poule Malebo s'est clôturée ce week-end. Le ministère provincial de l'agriculture, en partenariat avec le projet PARSA, ont débattu autour de 5 thématiques, notamment la problématique de la spoliation et de la sécurisation des sites agricoles du poule Malebo. Comme recommandation, il a été suggéré que les autorités policières, militaires et politico-administratives respectent les textes légaux, que les exploitants soient sensibilisés sur leurs droits de jouissance et non de propriétaire. Quant aux ressources de pêche, il faut recenser, organiser et regrouper les pêcheurs en association.
Écho d'économie. direction le sud Kivu où des vents violents perturbent les activités de pêche sur le lac Tanganyika. Trois embarcations de pêche en bois ont fait naufrage en l'espace d'une semaine dans le lac au large de la cité d'Uvira. Les pêcheurs ont pu être sauvés mais tous les intrants de pêche sont perdus et les embarcations fracassées. Le président de l'association Action pour la promotion de pêche sur le lac Tanganyika et le lac Kivu qui l'a annoncé ce matin affirme que ces vents perturbent les activités de pêche.
D'après plusieurs témoignages, les activités sont effectuées difficilement, si pas interrompues sur le lac Tanganyika, aussi bien pour la pêche que pour le voyage entre Uvira Kalemi et Uvira Kigoma en Tanzanie. Des vents très violents appelés Saba Saba empêchent les pêcheurs à prendre les risques d'exercer pendant la nuit. Le président de l'association des pêcheurs Apetaki affirme que la production des poissons a sensiblement baissé. Une embarcation en bois qui ramenait entre 10 à 15 caisses au Bumba de Petit de Frétin ne ramène aujourd'hui que 3 à 4 caisses. Emile Mbinga Malish explique cette situation par le fait que les équipes de pêche ne peuvent pas exercer jusqu'à l'aube suite au vent violent. La même source affirme cependant que si le prix d'un tas de petits de frétin, poisson appelé communément kaouzou, est maintenu à 1000 francs congolais sur le marché local, cela serait dû notamment à la tombée de la lune. Les pêcheurs qui ne prennent pas le risque d'aller en profondeur sur le lac se contentent de pêcher le long de la côte en portant ainsi les alevins. D'autre part, certains convoyeurs de bottes qui ont accosté ce matin au bitume Maïndélo en provenance de la Tanzanie ont affirmé avoir été confrontés aux mêmes difficultés de navigation sur le lac Tanganyika suite à ces vents violents. Les pêcheurs et les armateurs redoutent que cette situation perdure et n'influe sur le prix des produits du lac qui nourrissent l'économie locale au bitume Maïndélo. Doufira Fistongo Mamayabala pour l'Écho d'économie.
Écho d'économie, c'est fini pour ce soir. Une édition supervisée par Julien Nyamweni, mise en onde par Alain Goy et suivie par vous. Merci. We'll be right back.